Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, auditeur de Radio Silence. Ma chronique d'aujourd'hui, numéro 20, a pour titre Deux bandits démasqués, l'oligarchie et la monnaie. Nous commencerons comme d'habitude par regarder un peu l'actualité économique. Dans l'actualité économique générale, la période des fêtes est entamée par le commerce général depuis déjà 2 mois. Lequel tente de placer les gens réduits au rang de simples machines à consommer dans la situation d'avoir à faire leurs achats de Noël, entre guillemets, depuis le 1er octobre. Bientôt, l'oligarchie commerciale va faire débuter la période de Noël au mois de juillet. Depuis déjà 2 mois, donc, nous recevons une avalanche de publicités sur papier ou par Internet qui ne cessent de promouvoir des réductions de moins 10 à 50% en moyenne, moins 30%. Cela m'oblige à rappeler ce simple calcul. À l'occasion de telles publicités proposant des articles 4 fois moins chers à la télé, hein, qu'en boutique, on découvre que le pull que l'on croyait valoir, entre guillemets, 120 euros, revient à moins de 30 euros au vendeur. En effet, bien souvent, les commerçants de toute nature font 3 ou 4 fois la culbute, quand c'est pas plus, soit donc 300% de marge commerciale entre leur prix d'achat et leur prix de vente. Notre propos n'est pas aujourd'hui d'examiner les éventuelles excuses des dits commerçants. Notre propos est simplement de faire remarquer qu'une réduction de moins 50% leur laisse encore 100% de marge commerciale. Un pull réduit de 120 à 60 euros laisse en effet encore 30 euros de marge pour un prix coûtant supposé de 30. Personnellement, je pense qu'aucune marge, nulle part, dans aucune opération, dans n'importe quel domaine ne devrait dépasser 20%, avec un deuxième plafonnement annuel égal à un revenu maxi obtenu net qui serait égal à la valeur du travail fourni sur une échelle sociale juste, laquelle, évidemment, reste à dresser. Je rappelle que le fait de vouloir exiger d'un gogo, entre guillemets, qu'il laisse entre les mains du commerçant, transformateur ou producteur, de quoi lui permettre de faire fortune en 5 ans, comme cela fut le cas dans les années 70, n'est pas chrétien et offense Dieu, car cette exigence est un péché, même si l'on veut faire fortune à l'échelle d'une vie. La loi naturelle sanctionne la chose par une future récession terrible, tout à fait inévitable à terme plus ou moins long. Comment les gogos, entre guillemets, aussi miques, pourraient-ils générer des fortunes pour les fournisseurs de n'importe quoi et en plus pour les fonctionnaires ou assimilés? Il est urgent de rebâtir la chrétienté sur les piliers de la moralité, de l'honnêteté, de la transparence des prix. À ce sujet, je me rappelle que dans les années 70, justement, il fut décrété que tous les prix de vente affichés devaient être complétés des prix d'achat de ces produits. Cette règle n'est plus respectée. Pourquoi? Il est urgent d'en exiger le respect. Toutes les manifestations agricoles, notamment, ne cessent de clamer ce fait et de rappeler ce souci en filigrane. Dans l'actualité fiscale, j'en ai parlé la dernière fois, mais un rappel historique récent s'impose. Je suis tombé dessus, là. Depuis 70 ans au moins, les prélèvements obligatoires n'ont pas cessé une seule année de monter. Le serrage apparaît dans toute sa dureté quand on se rappelle qu'en 2003, le total s'élevait à 667 milliards d'euros avec 199 impôts plus les cotisations sociales, entre guillemets. En 2010, nous aurons 936 milliards d'euros de prélèvements obligatoires avec plus de 400 impôts, bien plus que de jours dans l'année, augmenter des fameuses cotisations, entre guillemets, dites sociales, encore entre guillemets. La progression ressort donc sur 8 ans à 17,5% l'an. Chirac a déclaré sans sourciller, rappelez-vous, qu'on ne compte pas sur moi pour augmenter les impôts. Sarkozy vient de répéter la main sur le cœur ces jours-ci. Qu'on ne compte pas sur moi pour augmenter les impôts. Et dans le même temps, il serre le collier étrangleur des esclaves et de l'économie qu'ils asservissent d'une poigne totalitaire d'acier. Visiblement, ils s'adressent à des gens qui n'ont aucune mémoire des faits et qui ne savent pas calculer au niveau CM2. J'espère que ce n'est pas votre cas. Toujours plus d'impôts, de dettes, d'assistanat socialiste, de nouveaux pauvres, de chômage, d'immigration. Je ne sais pas comment vous appelez tout cela, mais moi j'appelle cela de la haute trahison. Voilà. Mon conseil patrimonial du jour, c'est simple, il va être court. Investissez, je le redis, dans les actions de bonnes sociétés aux nominaux exprimés en dollars US et vous risquerez fort de recevoir de jolis cadeaux pour Pâques. Noël fini, le commerce va certainement tenter d'appâter les clients avec les cloches dont l'arrivée est prévue 3 mois plus tard. Vous ferez ainsi 3 bénéfices, plus-value sur la devise, plus-value sur le titre et économie de dépenses inutiles à prix surchargé en avril. Cela dit, dans ce chapitre numéro 20 de mon histoire de la monnaie, la devise ne peut même plus être errare humanum est, mais uniquement perseverare diabolicum. Le titre de ce chapitre, l'euro bandit démasqué. Le traité de Maastricht, dans l'orthographe de César dans le Bellum Gallicum, dit de Maastricht, ratifié en France par le référendum en 92 à 51% des exprimés et à 34% des inscrits, prévoyait une progression vers l'Union économique et monétaire, UEM, des 12 pays signataires. La République fédérale d'Allemagne, de France, de Grèce, d'Irlande, d'Italie, Royaume des Pays-Bas, République du Portugal, Royaume de Grande-Bretagne, de Belgique, de Danemark, d'Espagne et le Grand-Duché de Luxembourg. Les 12. Ils se réunirent à Maastricht en décembre 91 pour discuter des modalités de ce traité qu'ils signèrent le 7 février 92. Ils prévoyaient la création d'une citoyenneté européenne et une progression, entre guillemets, vers l'union économique et monétaire soumise à une condition. Chaque pays devait satisfaire à 5 critères ensemble. 3 critères économiques, inflation par les prix maxi de 2%, ratio d'endettement public limité à 60% du PIB et de déficit public limité à 3% de ce PIB. 1 critère monétaire, être resté dans le système monétaire européen, donc à plus ou moins 2,25% autour du cours pivot de l'écu, en tant que monnaie composite, panier de monnaie, et un critère financier, des taux d'intérêt à long terme ne devant pas dépasser de plus de 2% la moyenne de ceux des 3 pays les plus performants. Comme vous le voyez, le critère le plus important pour la vie des peuples, l'emploi, est oublié, entre guillemets, malgré l'insistance de 93 à 96 de Jacques Delors, alors à la Commission. Pour satisfaire à ces critères monétaires et financiers, tous les gouvernements, sauf ceux du Danemark et du Royaume-Uni, ont accepté de sacrifier l'emploi. Depuis, ils oublient qu'ils ont poursuivi une chimère et placé la charrue avant les bœufs. Ils occultent ce fait indéniable et confirmé par tous les spécialistes que l'économie véritable a été sacrifiée à cette chimère et que la monnaie unique est à l'origine de la dégradation des comptes publics, de l'accroissement exponentiel des prélèvements obligatoires, du chômage accentué, de la misère de leur peuple. Alors quand on a, comme moi et tant d'autres, un doute raisonnable sur l'inversion pour moi quasi certaine du signe du résultat du référendum, que le pauvre Bérégovoy, toujours selon moi, voulait sans doute dénoncer le fameux 1er mai de son assassinat, maquillé en suicide, selon le docteur Loïc Leribaud et quelques autres. Et qu'en outre, on sait, comme l'a déclaré un certain Jean-Claude Trichet, alors gouverneur de la Banque de France, qu'aucun des 12 gouvernements des pays signataires ne réunissait les 5 critères, sauf 3 pays, France, Luxembourg et Finlande, et qu'en conclusion, ils décidèrent quand même de passer à la phase 3 de l'UEM avec l'excuse, je cite Jean-Claude Trichet, que tous avaient fait des efforts. Il est évident que l'idéologie révolutionnaire a commandé. La terreur monétaire a été déclenchée pour une seule raison, finaliser la révolution, faire du passé table rase. Mais l'écu concret émis à Bâle par l'association de banques pour l'écu ne parut pas adapté au but poursuivi, trop de connotations historiques. L'euro fut alors inventé en 1995 par un petit comité de mythomanes prélevés dans les hautes sphères de la folie sectaire adoratrice de Satan. Il n'eut plus d'autre lien avec le passé qu'un coefficient abstrait de nature à déconnecter les peuples de leur histoire, par ailleurs réécrite complètement dans ce domaine-ci comme dans les autres, de manière à imprimer une version idyllique de l'arrivée de la monnaie unique. Satan a dû prendre son pied. Heureusement, ces fous ne savaient pas plus compter que leur maître, et ce coefficient calquait des valeurs monétaires nationales dans l'écu composite, conduisit à la dégringolade mathématique du cours de l'euro les premières années que j'avais évidemment prévues sans grand mérite. En effet, comment voulez-vous qu'une partie d'un tout égale le tout ? L'euro rentrait, évidemment, dans l'écu, et c'est toujours le cas aujourd'hui, dans le mécanisme de change européen BIS, et ne pouvait lui être donc ni égal ni encore moins identique. Contrairement au credo déchaîné par la propagande, tout fut faux de ce qui fut affirmé alors et répété par des perroquets, fameux idiots utiles du système bien connu du stalinisme. On m'interdit depuis 1996, de facto, je fais ici une parenthèse, de prendre la parole sur tout ça, même au FN et dans les radios dites libres comme Radio Courtoisie. On m'a dit oui, mais jamais ça s'est fait. Et je saisis donc l'occasion aujourd'hui de remercier encore Radio Silence, son président et son équipe, de me permettre de parler sans aucune censure, déjà depuis mars 2009. Fermons la parenthèse et revenons à nos moutons. Notons que la France a toujours fourni des statistiques tordues, pour ne pas dire truquées, que le Luxembourg avait une masse monétaire totalement disproportionnée avec son PIB tout petit, car elle incluait tous les faux dollars, entre autres, mais c'était le principal, inventés en Europe, qu'on appelait les euro-dollars à l'époque, depuis 1965, et que la Finlande sortait tout juste du bloc soviétique avec des statistiques économiques, comme par hasard, d'autant plus idéales qu'elles restaient invérifiables. À ces premières causes de grand banditisme gouvernemental s'en ajoutent d'autres, au pluriel, qui servent le même objectif, faire du passé table rase. Les billets en euros, comme les pièces, rompent totalement avec les messages nationalistes ou historiques antérieurs et servent au peuple sidéré des images abstraites sans signification réelle, autre qu'une vague suggestion de pont auquel l'idéologie prête la valeur superficielle d'un rapprochement supposé servi, bien sûr, par la monnaie unique entre les peuples. Ces billets ne sont pas remplis en lettres et en chiffres, comporte une signature illisible sans qualité ni nom de signataire, ne mentionne même pas l'émetteur, lequel est supposé seulement évoqué par des sigles, dont j'ai vérifié moi-même début 2002 qu'il correspondait alors à 383 entreprises rien qu'en France. L'illusion est complètement destinée à leurrer les peuples avec le drapeau de l'Union européenne, drapeau officiel, sur ses billets, qui ont donc perdu toute valeur juridique de billets à ordre, qu'ont conservé par contre la couronne danoise, la livre britannique, et extérieurement le dollar par exemple, ou même le yen. Quelle fut et quelle est actuellement la situation réelle ? 11 seulement des 27 États membres actuels en 2009 de l'Union européenne adoptèrent l'euro dès sa création, purement scripturale, le 1er janvier 1999. L'Allemagne, qui était signataire de Maastricht, l'Autriche, qui ne l'était pas, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, la France, l'Irlande, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, qui était signataire, la Finlande, qui ne l'était pas. Et puis, vint ensuite, le 1er janvier 2001, la Grèce, qui était signataire, elle arriva avec un peu de retard. Ensuite, la Slovénie, qui n'a jamais signé, mais qui est arrivé le 1er janvier 2007, Chypre le 1er janvier 2008, Malte le 1er janvier 2008, et enfin la Slovaquie le 1er janvier de cette année 2009, qui est donc le 16e État sur les 27 de l'UE à avoir adopté l'euro officiellement de jure. D'anciennes provinces démembrées de la Yougoslavie, toujours de la zone Mark, comme l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Luxembourg, la Finlande, les Pays-Bas, le Monténégro et le Kosovo, détachés de l'ensemble serbe récemment, ont adopté l'euro comme monnaie usuelle et se trouvent donc de facto annexés dans la zone euro sans en être membres ni représentés officiellement par aucun État. Les pays, signataires ou non de Maastricht, qui se trouvent toujours être en dehors de la zone euro et garder leur propre monnaie. Signataires, le Danemark, le Royaume-Uni, tous les deux royaumes. Non signataires, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie adhèrent avec le Danemark au mécanisme de change BIS en Europe avec l'Euroland. La Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Suède, la Bulgarie, la République tchèque et le Royaume-Uni sont membres de l'UE mais ne font pas partie à l'heure actuelle de la zone euro et j'ai pas l'impression qu'ils veuillent en faire partie. Voilà la situation actuelle. Il y a 12 monnaies qui circulent dans l'UE des 27. Combien d'entre vous avaient réellement compris cela, qui croient peut-être à cette propagande satanique selon laquelle l'euro est LA monnaie unique de l'UE? Le drapeau européen sur les billets est une véritable tromperie depuis 7 ans, pénalement sanctionnée en France, prétention à une qualité usurpée, et affiche officiellement la résolution idéologique de tout faire pour asservir à la terreur monétaire les récalcitrants. Les peuples sont méprisés par leur gouvernement. L'idéologie emploie le masque dérisoire de jolis hologrammes, chefs-d'œuvre de la technologie, pour vous abuser et surtout les plus jeunes, les plus crédules. Voilà le masque, la bêtise humaine, de la terrible réalité de l'esclavage en marche. L'oubli de toutes les notions élémentaires et des leçons du passé, décidées par des traîtres, asservit les peuples et les avilit. Même le dollar, pourtant vérolé depuis la victoire du Nord sur le Sud après la guerre de sécession, fait figure de bonne monnaie à côté de l'euro bandit satanique que nous venons de démasquer encore une fois. Comme j'ai l'habitude de beaucoup critiquer les gens au pouvoir partout et à toutes échelles, tout comme les choses, nous complimenterons, une fois n'est pas coutume, la Banque de France pour la défense qu'elle assuma de l'honneur de la France entre 1917 et 1992, dans notre prochaine édition que j'intitulerai pour l'histoire de la monnaie, chapitre 21, l'honneur de la France. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, auditeur de Radio Silence.